Nous allons tout de suite encore chanter un cantique, mais lorsque nous chantons cette magnifique expérience, l'un ou l'autre peut se remémorer où il a fait cette expérience, où il a reçu ce que nous chantons. Je m'en souviens très bien, en 1949, à Hambourg, dans la rue Eimsbüttler, dans une cave où, alors que tout était encore en ruine, nous étions réunis avec des croyants de partout et cherchions la face de Dieu dans la prière, en 1949. Il m'est arrivé de faire cette expérience avec Dieu. Et je crois que l'un et l'autre savent le jour, l'heure et le lieu où cela s'est produit. S'il y a encore parmi nous quelqu'un qui ne sait pas et qui n'a pas la certitude, que ce soit ce jour-là, que ce soit alors ce jour-là, aujourd'hui, où il reçoit cette attitude, où il fait l'expérience. Je ne prêcherai pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais seulement lire la parole de Dieu pour édifier et renforcer la foi. Et ensuite, nous irons, nous passons à la prière. Le jour de la Pentecôte, Pierre n'a prêché qu'après l'effusion du Saint-Esprit. Pas avant, mais après. Et si nous voulons suivre le modèle biblique, alors nous allons d'abord méditer la parole de Dieu, nous rappeler les promesses et les porter dans notre cœur, puis nous nous mettrons d'un commun accord dans la prière. Combien croient que Dieu s'en tient encore aujourd'hui à sa parole? Amen. Amen. La parole de Dieu reste éternellement vraie. Toute promesse est oui et amen en Jésus-Christ, notre Seigneur. Comme ce cantique le dit, un jour toute lutte et tout combat prendront fin, alors je serai avec Jésus dans la gloire. Quelle grâce! Ce n'est pas quelque chose qui est écrit dans un journal, c'est écrit dans la parole infaillible de Dieu. Notre Seigneur est allé nous préparer une place et il reviendra nous prendre auprès de lui dans la gloire. Et ce retour doit être très très proche. Et que Dieu profite de ce jour pour nous bénir, nous et tout son peuple, sur toute la terre d'une manière très spéciale. Pour nous rapprocher de lui, nous rapprocher les uns des autres, afin qu'il puisse se manifester et se glorifier. Comme nous voulons prendre le temps de prière aujourd'hui et que je veux lire un certain nombre de passages des Écritures, je vais commencer immédiatement. Je commence par Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11, verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Lorsqu'ils se dirigèrent vers l'est, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Levez-vous, peignons des tuiles et faisons-les durcir au feu et les briques leur servirent donc de pierre à bâtir et la boue de terre leur servit de ciment. Alors ils dirent, levez-vous, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet atteindra le ciel. Et faisons-nous un nom, de peur que nous ne nous dispersions sur toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que les hommes bâtissaient. Alors, l'Éternel dit, il est vrai qu'ils forment un seul peuple et qu'ils ont tous la même langue. Et ce n'est là que le commencement de leur entreprise. Désormais, rien de ce qu'ils entreprendront ne sera irréalisable pour eux. Allons, descendons et confondons là leur langue, afin que personne ne comprenne plus la langue de l'autre. L'Éternel les dispersa donc de là sur toute la surface de la terre, de sorte qu'ils durent abandonner la construction de la ville. C'est pourquoi on donna à cette ville le nom de Babel, c'est-à-dire confusion, car c'est là que l'Éternel a confondu le langage de toute la population de la terre. Et c'est de là qu'il les a dispersés sur toute la terre. Peut-être demandera-t-on quel est le rapport entre cette parole et le jour que nous commémorons aujourd'hui. Nous savons que le jour de la Pentecôte, tous ceux qui se sont rassemblés ont entendu et compris leur langage d'une seule bouche, ont compris leur langue d'une seule bouche, tous. Ce qui au début était confus et confondu et dispersé parce que les hommes voulaient atteindre quelque chose par leurs propres moyens. Tout ce qui avait été dispersé et confondu est devenu possible le jour de la Pentecôte par la puissance du Saint-Esprit, par grâce. Que tous comprennent d'une seule bouche la même chose. Ici, les termes ou la notion sont mentionnés trois fois, et ce par les hommes. Sur cette expression, nous voulons. Chaque fois que les hommes disent, nous voulons ceci, nous voulons cela, faisons ceci, faisons cela, nous pouvons tous de suite mettre un point d'interrogation derrière. Car un jour viendra où Dieu touchera la chose et elle s'effondrera. Mais si nous nous en remettons à Dieu et soumettons le « nous voulons » à sa volonté et à son action, alors il pourra faire ce qu'il a décidé de faire conformément à sa parole dans son Église, dans son Église. Nous avons ici les termes. Au verset 3, ils se dirent l'un à l'autre, « Levez-vous, peignons des tuiles et faisons-les durcir au feu. » Et les briques leur servirent donc de pierre à bâtir. Si nous lisons 1 Pierre chapitre 2, le verset 5, là il est écrit, vous êtes des pierres de construction, des pierres de l'édifice, des pierres vivantes qui n'ont pas traversé le feu humain des hommes, mais le feu divin afin de passer l'épreuve et d'être incorporé dans l'édifice de Dieu. Le mortier, le ciment, n'est pas ce qui peut être extrait de cette terre, mais plutôt, ici, il s'agit de l'amour de Dieu avec lequel les joints entre la pierre et la pierre doivent être jointoyés, remplis de manière correcte et ordonnée. Si nous faisons une comparaison, il est dit, au verset 4, « Levez-vous, bâtissons-nous une ville et une tour. » Faisons-nous un nom. Nous voulons bâtir une ville, nous voulons bâtir une tour, nous voulons nous faire un nom. Après que les hommes ont voulu tout cela, le Seigneur Dieu se sert de la même manière de prononcer et dire à ceux qui l'entourent dans le ciel, allons, descendons et confondons leur langage là-bas. Nous voulons aller et les confondre. Nous devons veiller à ce que ce ne soit pas nous qui voulions quelque chose dans le royaume de Dieu, mais que nous puissions dire de tout notre cœur que ta volonté soit faite. Que veux-tu que je fasse au Seigneur? Qu'est-ce qui est dans ton programme divin? Puis, dans la Genèse, au chapitre 6, nous lisons la phrase du verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit, Genèse 6, verset 3, ne sera pas abaissé à jamais dans l'homme, puisqu'il est chair. L'homme de chair et de sang n'a pas par lui-même la possibilité de donner toute la place réellement à l'Esprit de Dieu. À moins que Dieu ne fasse en nous l'œuvre de sa grâce. En ce qui concerne ce jour, je voudrais lire dans Lévitique, donc ce jour de la Pentecôte, je voudrais lire dans Lévitique chapitre 23, du verset 9, ensuite et ensuite du verset 15. Donc, du verset 15, ici, il y a la description du jour de la Pentecôte selon l'Ancien Testament. Du verset 9 d'abord. Lévitique, chapitre 23, du verset 9. L'Éternel donna encore cet ordre à Moïse. Fais connaître aux Israélites les ordonnances suivantes. Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur les premières gerbes de votre moisson. Celui-ci tissera devant l'Éternel la gerbe donnée afin qu'elle vous rende agréable. Le lendemain du sabbat, le sacrificateur la tissera. Le sacrificateur la tissera. Vous offrirez en holocauste à l'Éternel le jour où vous ferez tisser la gerbe un agneau d'un an sans défaut. Jusqu'ici, c'est pour cette précieuse parole de Dieu. Donc, si nous prenons l'Ancien Testament comme base pour le nouveau, nous devons reconnaître la réalité ou la réalisation dans le Nouveau Testament à partir des ombres de l'Ancien Testament, des images, des symboles de l'Ancien Testament, et cela, les reconnaître dans leur réalisation, dans leur réalité dans le Nouveau Testament. L'une est la gerbe des prémices tissée devant la face de Dieu. Mais l'autre est le pain des prémices. Et je voudrais maintenant lire le verset 15 du Lévitique. De Lévitique, chapitre 23, du verset 15. Vous compterez 7 semaines à partir du lendemain du sabbat, du jour où vous aurez apporté la gerbe de blé tissé, ce seront des semaines entières, jusqu'au jour qui suit le 7e sabbat. Vous compterez 50 jours, puis vous présenterez à l'Éternel une offrande de blé nouveau. Vous présenterez de vos demeures, de pain tissé, fait de 2/10 des fas de fine farine. Donc le premier sera la gerbe de tissage, le second sera le pain de tissage. La gerbe tissée et le pain tissé. Je ne sais pas si nous pouvons commencer à comprendre cela, mais nous trouvons ici l'intervalle entre Golgotha et l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte. Il y a 7 semaines complètes entre les deux. Le mot Pentecôte signifie déjà 50 en soi. Et 7 fois 7 font 49. Et le 50e jour était le jour de la Pentecôte. Ce n'était pas seulement le jour où la gerbe a été tissée devant le Seigneur, mais où déjà le fruit qui a été apporté a déjà été broyé, fondu, transformé à une pâte. Et c'est à ce moment-là qu'il a été désigné comme un pain à tisser de la part de Dieu. Si nous considérons que même le tissage d'une gerbe, et certains connaissent l'agriculture, quand on plante une gerbe, on ne les tisse pas l'une dans l'autre, on les lie. Et elles étaient autrefois plantées, aujourd'hui on les bat immédiatement. Mais la première gerbe étaient tissées les unes dans les autres. Tout le monde sait ce que tisser veut dire. Ton costume est tissé. Tissé l'un dans l'autre. Nulle part un fil détaché. Devant Dieu, la gerbe des prémices a été tissée pour rendre le peuple de Dieu agréable devant le Seigneur. Et un agneau d'un an a été ensuite immolé. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, a été immolé pour que les prémices de l'Église, les premiers fruits de l'Église puissent naître. Mais de cette gerbe des prémices doit naître un pain des prémices. Il faut qu'il y ait une fusion totale de la moisson avant qu'on puisse en faire un pain. Alors que le Seigneur Jésus était sur le point de se séparer d'ici et d'aller sur la croix, de quitter la terre et d'aller sur la croix, il prit un pain, rendit grâce et dit, « Ceci est mon corps pour vous. » L'Église du Dieu vivant a été rassemblée comme un pain de la part de Dieu, a été jointe ensemble de la part de Dieu comme un pain. Vous pouvez, si vous le souhaitez, lire dans 1 Corinthiens chapitre 10. Je préfère le faire pour qu'il ne reste aucune ambiguïté. Nous voulons que la parole de Dieu apporte la clarté dans chaque cœur sur chaque sujet. 1 Corinthiens 10, du verset 16. la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sein du Christ, le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps du Christ? Parce qu'il n'y a qu'un seul pain, malgré notre multiplicité, nous ne formons qu'un seul corps, car nous nous partageons tous un seul pain. Avons-nous compris cela? Le corps du Seigneur n'est pas un mélange de composants différents, comme ça un assemblage quelconque. Le corps du Seigneur est une unité divine. De la gerbe à tisser, la gerbe tissée est devenue le pain tissé. L'une représente Golgotha. Donc la gerbe tissée représente Golgotha et le pain tissé représente la Pentecôte où les différents membres sont fondus en une seule chose commune. Lisons le chapitre 28 du prophète Ésaïe et plus précisément le verset 9. Ésaïe 28, verset 9. À qui donc enseignera-t-il la connaissance et à qui interprétera-t-il les révélations? Aux enfants qui viennent d'être sevrés de lait, qui viennent d'être sevrés du sein de leur mère. C'est toujours « toi fais ceci, toi fais cela, vous faites ceci, vous faites cela ». Ici un peu, là un peu. Ensuite, suit le verset. Le verset 11. Oui, c'est par des hommes aux lèvres bégayantes et à la langue étrangère qu'il parlera à ce peuple. C'est à cette parole que Paul se réfère dans 1 Corinthiens 14, verset 21. Et qu'il exprime très précisément dans sa lettre à l'église de Corinthe le contenu de ces choses. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 21. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes de langue étrangère et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Nous devons noter ici qu'il n'est pas écrit que les hommes parleront en d'autres langues, mais que le Seigneur lui-même dit, « Je parlerai en d'autres langues à ce peuple. » Mais Dieu a besoin d'une bouche. Dieu se servira de ta bouche et de la mienne pour cela, comme il s'est servi de la bouche de ses serviteurs et de ses prophètes dès le commencement. Mais ce n'est pas toi et moi qui devons être ceux qui parlent. Non, c'est le Seigneur lui-même qui doit être celui qui parle par l'inspiration du Saint-Esprit. Car c'est ainsi qu'il est écrit, « Je parlerai à ce peuple. » Si nous avons considéré le verset précédent, il est très typique de notre époque. On y dit toujours « fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela ». Et il ne s'agit pas de ce que je te dis de faire, ni de ce que tu me dis de faire. Il s'agit de faire en sorte que Dieu puisse faire dans ta vie et dans la mienne ce qu'il a décidé de faire. Pas un peu ici et un peu là, mais nous voulons, avec l'aide de Dieu, entrer dans ce qu'il a fait pour nous. Dans le verset 12 d'Ésaïe 28, il est écrit, « Lui qui leur a dit, ceci est le lieu de repos, donné du repos à ceux qui sont fatigués, et ceci est le lieu de repos. Mais ils n'ont pas voulu écouter. » Si nous comparons cela avec Hébreux chapitre 4, il y est écrit, il y a du repos, il y a un repos pour le peuple de Dieu. Peut-être lisons-nous les Écritures autant que possible aujourd'hui. S'il vous plaît, Hébreux, lisons plutôt Hébreux chapitre 4, verset 1. C'est pourquoi, puisque la promesse d'entrer dans son repos, Hébreux 4, verset 1, n'a pas encore été accomplie, veillons avec soin et peur à ce qu'aucun de vous ne se trouve être resté. On pourrait ou devrait lire tout le chapitre, mais nous voulons passer à d'autres passages bibliques afin de présenter à nos yeux une multitude de pensées en rapport avec l'effusion du Saint-Esprit. En rapport avec l'effusion du Saint-Esprit. Dans Ésaïe 28, à partir du verset 16, nous lisons maintenant. C'est pourquoi, Ésaïe 28, verset 16, c'est pourquoi le Seigneur Dieu a dit, sachez-le, c'est moi qui pose un fondement en Sion, une pierre éprouvée, une pierre angulaire, précieuse, solide comme le roc. Celui qui croit ne sera pas confus. L'avons-nous tous entendu ou lu? L'Éternel, notre Dieu, a posé une pierre angulaire. Et celui qui place sa confiance en lui ne sera pas confus. Ce qui me touche et me saisit puissamment, c'est quand je lis les lettres des apôtres et que je vois qu'ils sont toujours revenus à la parole prophétique par le Saint-Esprit. Nous pouvons également lire cette partie très clairement dans 1 Pierre, chapitre 2, au verset 6. 1 Pierre, chapitre 2, verset 6. Ici, il est écrit. Car l'Écriture dit, voici que je pose en Sion une pierre choisie, une pierre d'angle, précieuse, et quiconque met sa confiance en lui ne sera jamais confondu. Aujourd'hui, s'il vous plaît, mettons notre confiance en lui. Et comme il est écrit, nous ne serons pas déçus. Il s'agit en effet d'une pierre angulaire éprouvée, c'est-à-dire une pierre angulaire qui a subi toutes les épreuves, qui les a surmontées, qui est sortie victorieuse de toutes les tentations. Une pierre angulaire éprouvée, qui est solide comme un roc. Personne ne peut le déplacer. Il est le rocher qui reste immobile pour l'éternité. Mais retenez bien cette parole. Sachez bien, c'est moi qui pose en Sion une pierre de fondation, une pierre éprouvée, une pierre angulaire, précieuse, solide, comme le roc. Celui qui croit ne sera pas confondu. Nous pourrions revenir à l'épître de Pierre et lire que nous sommes construits, bâtis comme des pierres vivantes sur cette pierre angulaire pour une habitation divine en esprit, une habitation de Dieu en esprit, afin de pouvoir offrir des sacrifices agréables à Dieu. Il est certain que cette pierre angulaire est solide comme un roc et reste immobile. De même, tous ceux qui ont été édifiés sur lui sont solides comme un roc, immobile. Même si, comme l'ont chanté nos frères et sœurs, les tempêtes font rage et les vents soufflent, même si les vagues semblent tout emporter, je vous le dis, celui qui a mis sa confiance dans le Seigneur, celui qui a été fondé et édifié sur lui, cette personne n'est pas ferme en elle-même, mais cette personne est fondée en lui, et cela non seulement pour ce temps et solidement édifié, mais aussi pour l'éternité, pas seulement pour ce temps, mais pour l'éternité. Bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes, où Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Les prophètes n'ont pas amassé du sable pour construire dessus. Ils ont posé la pierre angulaire. Et Paul l'a exprimé dans 1 Corinthiens 3, au verset 10. J'ai posé le fondement chez vous comme un sage architecte. Et personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a déjà été posé. Et sur ce fondement, nous pouvons continuer à construire et à bâtir par grâce. À construire par grâce. Permettez-moi de me hâter car je voudrais lire encore plusieurs passages de l'Écriture et notamment de Joël, le chapitre 2. En français, Joël chapitre 2, verset 28 en français. En allemand, c'est chapitre 3, verset 1. Et après cela, il arrivera que je répandrai mon esprit sur toute chair, de sorte que vos fils et vos filles prophétiseront, que vos vieillards recevront des révélations en songe, que vos jeunes gens auront des visions. C'est la parole à laquelle Pierre s'est référé en ce jour de la Pentecôte. Et cela arrivera, pas peut-être si ou non. Cela arrivera, dit le Seigneur, que je répandrai mon esprit sur toute chair. Il relit le verset 28 de Joël 2. De sorte que vos filles et vos filles prophétiseront, que vos vieillards recevront des révélations en songe, que vos jeunes gens auront des visions. L'effusion du Saint-Esprit est un acte surnaturel de Dieu. Et cet acte surnaturel de Dieu a un effet surnaturel dans ta vie et dans la mienne. Il ne peut en être autrement. Lorsque l'Esprit est venu sur les prophètes, ce ne sont pas eux qui ont parlé, mais Dieu qui a parlé par eux. Lorsque l'Esprit est venu sur l'Église du Nouveau Testament, ce n'est pas Pierre qui a parlé, mais l'Esprit de Dieu à travers Pierre, a pu parler à travers Pierre. Donc, si Aujourd'hui, nous sommes réunis ici au nom du Seigneur. Ce n'est pas pour célébrer une Pentecôte passée ou pour regarder vers l'avenir à la recherche d'une Pentecôte, mais simplement pour dire dans notre cœur, ô Dieu, ce jour est le jour que tu m'as destiné. Aujourd'hui, je lève les yeux vers la croix à Golgotha. Aujourd'hui, j'accepte ma rédemption totale selon l'esprit, l'âme et le corps. Aujourd'hui, je me mets à ta disposition comme un temple du Saint-Esprit. Remplis-moi de ton Saint-Esprit et confirme ta parole. Et je vous le dis, que si nous le faisons d'un commun accord dans la foi, les cieux seront ouverts et l'Esprit de Dieu descendra sur nous tous. Je poursuis ma lecture. Zacharie 4, verset 1. Alors l'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla comme celui qu'on réveille de son sommeil. Il me demanda, que vois-tu? Je répondis, je vois un chandelier tout en or, avec un réservoir d'huile à son sommet. Et sept lampes qui y sont fixées et sept conduits de couler pour les lampes qui y sont fixées. Voilà jusqu'ici cette parole. Ici, l'Église du Nouveau Testament a déjà été montrée au prophète de l'Ancien Testament comme le chandelier d'or à sept branches avec le réservoir d'huile au-dessus de ces sept lampes et de cet unique réservoir d'huile sortaient sept tuyaux de coulée et chaque tuyau était dirigé vers l'une des sept lampes. Une référence aux sept âges de l'Église par lesquels l'Église du Nouveau Testament est passée. Nous vivons dans l'âge du Saint-Esprit. Et si nous avons compris ce que Dieu a fait et révélé par le ministère de Frère Branham, alors, nous connaissons même les sept étoiles qui étaient dans la main droite du Seigneur. Et lorsque nous lisons ici dans Zacharie 3, au sujet des sept esprits, peut-être devrais-je le faire à l'instant, au sujet des sept yeux, Zacharie 3, du verset 9. Car voici la pierre que j'ai placé devant Josué sur cette seule pierre. Sept yeux sont fixés. Sur cette pierre, je graverai moi-même maintenant son inscription. C'est la déclaration de l'Éternel des armées. Et j'effacerai en un jour la culpabilité de ce pays. C'est ce qu'il a fait sur la croix à Golgotha. En un seul jour, il a effacé par l'offrande de son corps en sacrifice les fautes. Il les a ôté et effacé. Et s'il est question ici de sept yeux, nous pourrions aller au chapitre 4 de l'Apocalypse, où Il est alors question des sept esprits de Dieu. Mais restons-en à ce sujet. Ici, lisons le verset 10 de Matthieu 3. Matthieu 3, verset 10. Mais déjà la hache est mise à la racine des arbres, et tout arbre qui ne produit pas de bon fruit sera coupé et jeté au feu. Je vous baptise d'eau seulement pour la repentance, mais celui qui vient après moi est plus fort que moi. Et je ne suis pas assez bon pour lui ôter ses souliers. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Donc nous voyons que dans l'Ancien Testament, on mettait les briques dans le feu, c'est-à-dire dans le four, pour qu'elles deviennent solides, pour qu'elles résistent aux intempéries, pour qu'elles puissent résister à tout ce qui pourrait arriver. Dans le Nouveau Testament, nous lisons ici que le Seigneur Jésus baptise avec l'Esprit et le feu. L'Esprit et le feu vont de pair. Et si nous comprenons ce que Jean dit ici, « Moi, je vous baptise d'eau seulement pour la repentance. Mais celui qui vient après moi vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. » Donc, si nous allons tout de suite et passons à Acte 2, ces deux termes que nous les y retrouverons là-bas. Esprit et feu. Mais avant d'y aller, je voudrais lire le verset 16 de Matthieu 3 maintenant. Matthieu 3, verset 16. Or, lorsque Jésus eut été baptisé et qu'il fut sorti de l'eau, voici que les cieux s'ouvrirent à lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Verset 17. Et voici qu'une voix retentit dans les cieux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé tout mon bon plaisir. Frères et sœurs, nous rencontrons ici une parole très, très sérieuse. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est le premier-né parmi de nombreux frères, engendré par l'Esprit. Il a suivi la voie de l'obéissance et s'est fait baptiser par Jean dans le Jourdain en disant « C'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » Mais au moment même où il était baptisé et sorti de l'eau, les cieux s'ouvrirent et le Saint-Esprit descendit sur lui. Nous avons la promesse de nous repentir et d'être baptisés au nom de Jésus-Christ et de recevoir ainsi aussi le don du Saint-Esprit. Ce n'est qu'après cela qu'il est écrit, et voici qu'une voix retentit dans les cieux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé tout mon bon plaisir. Cette voix n'a pas retenti immédiatement après le baptême d'eau, mais après la descente du Saint-Esprit. C'était la réponse de Dieu au baptême d'eau. La réponse de Dieu à ton baptême d'eau et au mien, à ta repentance et à la mienne, à ta conversion et à la mienne, c'est le baptême du Saint-Esprit et de feu. Et si nous le comprenons ainsi pleinement, sincèrement, nous ne nous contenterons pas de prier à la légère et de dire, « Seigneur, si telle est ta volonté, remplis-moi aujourd'hui de ton Saint-Esprit. » C'est la volonté de Dieu. Il faut que cela soit clair pour tous. Mais si nous n'avons pas de certitude à ce sujet, nos prières ne servent à rien. Nous devons savoir et que Dieu, et je peux citer ici Frère Branham, il dit mot pour mot, la conversion d'une personne n'est pas achevée sans le baptême du Saint-Esprit. Il dit Dieu doit donner son sceau. Dieu doit donner sa réponse à l'homme. Il dit, la conversion est notre, est le fait de se tourner à Dieu, de venir à Dieu, mais de se tourner vers Dieu. Mais la réponse divine, que notre repentir et que le pardon nous ont été accordés, la réponse divine que Dieu reconnaît notre repentance et que le pardon nous a été accordé consiste en ce que Dieu répond par l'Esprit et le feu, que les cieux s'ouvrent et que nous sommes revêtus de la puissance d'en haut. L'ennemi n'a pas peur d'une église. Mais lorsqu'une église devient un instrument dans la main de Dieu, les choses sont différentes alors. L'Église du commencement est devenue un instrument dans la main de Dieu et c'est ce que nous devons devenir par la grâce à la fin. Lorsque Jésus eut été baptisé, il relut le verset 16 de Matthieu 3, et qu'il fut sorti de l'eau, voici que les cieux s'ouvrirent. S'ouvrir à lui. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Le verset 17, et voici qu'une voix retentit dans les cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé tout mon bon plaisir. Nous voulons être agréables à Dieu. Nous savons qu'Enoch marchait avec Dieu, que d'autres hommes de Dieu marchaient avec Dieu, avaient le témoignage dans leur cœur, le témoignage de Dieu. Mais ce n'était pas leur témoignage, c'était le témoignage de Dieu. Son esprit, c'est son esprit qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ta propre réponse ne te suffit pas. Ma réponse ne te suffit pas. Seule la réponse divine nous aidera, toi et moi. Et dans ce cas, la réponse divine ne consiste pas en des paroles, en des mots, mais en des actes, en l'accomplissement de ce que le Seigneur a promis. Dans Luc chapitre 12, verset 49, il est écrit, Luc 12, 49, « Je suis venu apporter un feu sur la terre. Je suis venu apporter un feu sur la terre et que pourrais-je souhaiter de mieux que de le voir déjà allumé ?» Ici, avant ses souffrances, le Seigneur Jésus parle du feu qu'il voulait allumer sur la terre. Où voulait-il l'allumer? Voulait-il mettre le feu à une maison? Voulait-il mettre le feu à une ville? Non. Il voulait remplir son peuple, son église, d'Esprit Saint et y mettre le feu de Dieu afin que nos lampes restent allumées et que nos vases restent remplis d'huile. Il est venu allumer un feu sur la terre et dit, que voudrais-je? Que pourrais-je souhaiter de mieux que de le voir déjà allumé? Il avait déjà en vue, sous les yeux, l'église qui avait été allumée à la Pentecôte avec ce feu divin. Il le voyait déjà. Luc 24, verset 47 jusqu'au verset 49. Luc 24, verset 47 jusqu'au verset 49. Luc 24, 47. Et à cause de son nom, il faut que la repentance pour la rémission des péchés soit prêchée à toutes les nations, mais d'abord à Jérusalem. Vous êtes mes témoins. Et sachez bien que je fais venir sur vous les biens de la promesse de mon Père. Mais vous restez ici dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ce sont là, entre autres, les dernières paroles que le Seigneur Jésus a prononcées. Mais vous restez ici jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Je vais vous dire ce qu'il en est. Si nous voulons mettre en place notre propre programme, nous devrons y aller avec nos propres forces. Mais si nous sommes devenu réellement une partie du plan de salut, du salut divin en ce temps, nous ne pouvons absolument rien faire par nos propres moyens. Car, ainsi parle le Seigneur, par le prophète Zacharie, ce n'est ni par des armées, ni par la force, mais par mon esprit que cela se fera. L'œuvre de Dieu est et reste l'œuvre du Saint-Esprit. Et vous restez ici jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Que se passerait-il si nous prenions cette parole à la lettre pour nous aujourd'hui? Si nous pouvions aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, prendre la décision de dire, Seigneur, nous restons ici jusqu'à ce que nous soyons revêtus de la puissance d'en haut. Jusqu'à ce que tu aies répondu, jusqu'à ce que les cieux se soient ouverts, jusqu'à ce que ton Saint-Esprit soit descendu. Vous savez, un homme qui fait cette expérience n'a pas besoin de demander à quelqu'un. Il sait quand et comment cela s'est passé. Dans Jean 14, il est dit, du verset 14, « Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre soutien, un autre consolateur, afin qu'il soit avec vous pour l'éternité. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Remarquez-vous ici la différence? Autrefois, il était avec eux. Mais ensuite, il devait être en eux. Il ne suffit pas que le Saint-Esprit soit avec nous ou qu'il soit sur nous. Il doit être en nous, comme nous le lisons ici. De plus, le Seigneur dit au verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous. » Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me voyez, je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Oh, quelle parole merveilleuse! Je ne vous laisserai pas orphelin. En d'autres termes, je veux être votre Père. Je prendrai soin de vous. Je ne vous laisserai pas errer comme des orphelins. Sachez que je suis votre Père, que je vous ai engendré. Vous êtes mes fils et mes filles. Je mettrai mon esprit en vous. Et cet esprit criera « Abba, Père ». Il y aura un lien que Dieu aura établi en nous avec lui, rétabli en nous avec lui. Et si le Consolateur est venu, pourquoi le mot Consolateur? On peut y réfléchir longuement. David dit dans un passage, « J'étais si angoissé et avait besoin de consolation. Dans Ésaïe 40, nous lisons ces mots, « Consolez, consolez mon peuple. » C'est une consolation divine qui entre dans notre cœur par la puissance du Saint-Esprit. Et comme on ne sait parfois plus, on ne sait plus ce qui devrait arriver et comment faire les choses. Soudain, on devient silencieux et le Consolateur est proche et il est là. Et une consolation divine nous vient. Comme un fleuve qui s'écoule du sanctuaire de Dieu. Le Consolateur. Le Seigneur dit, dans le monde, vous avez peur. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Il dit, je suis vivant et vous, je vis et vous vivrez aussi et vous devez vivre. Frères et sœurs, reconnaissons-nous le plan divin du salut. Certaines prédications de Frère Branham sont très profondes. Et dans l'une de ces prédications, je ne sais pas si elle a déjà été envoyée, Frère Branham dit, nous étions déjà en Dieu avant la fondation du monde. Mais ce n'est que lorsque Dieu est venu dans la chair et que nous sommes apparus dans la chair que la rédemption a pu avoir lieu. Nous étions en Christ quand il a été crucifié. Nous étions en Christ lorsqu'il a été enseveli. Nous étions en Christ lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts. De même qu'Ève était en Adam dès le commencement. De même, l'Église épouse du Seigneur a été en lui dès le commencement. La chair, donc chair de sa chair, esprit de son esprit, né de nouveau pour une espérance vivante. Et c'est pourquoi il est écrit, il n'a pas eu honte de nous appeler ses frères. Car ainsi est-il écrit, je ferai connaître ton nom à mes frères. Lui, le premier-né d'une multitude de frères, le ciel s'est ouvert au-dessus de lui. Et je vous le dis, depuis lors, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert et l'Esprit de Dieu se répand sur tous ceux qui s'ouvrent. Permettez-moi de lire encore brièvement Jean 15, du verset 26. Mais quand viendra le Consolateur, le soutien que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui sort du Père, il rendra témoignage de moi. Mais vous aussi, vous êtes mes témoins, car vous avez été avec moi dès le commencement. Nous sommes ses témoins. Nous n'avons pas été ajoutés par hasard, mais nous avons été inclus dès le début dans le plan de salut de Dieu. Nous appartenons à Dieu pour le temps et pour l'éternité. Et c'est pourquoi nous sommes nés de nouveau pour une espérance vivante, parce que nous sommes la semence divine. J'espère que nous le comprendrons et que nous le comprenons. Je poursuis ma lecture du chapitre 16, dans Jean 16, verset 6 maintenant. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Verset 7, donc Jean 16, verset 7 maintenant. Mais je vous dis la vérité, il est bon pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, celui qui vous aide ne viendra pas à vous. Celui qui vous aide ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il ouvrira les yeux du monde sur le péché et sur la justice et sur le jugement. Sur le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. Sur la justice, que je vais au Père et que désormais vous ne me verrez plus. Sur le jugement, que le prince de ce monde est jugé. J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand celui-ci sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, car c'est de mes biens qu'il prendra et qu'il vous annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il le prend de mes biens et qu'il vous l'annoncera. Quelle parole merveilleuse de Dieu! Dieu n'a rien oublié. L'enseignement, l'annonce de ce qui est à venir, tout ce dont nous avons besoin, Dieu l'a prévu. Et si nous recevons ce qu'il a promis, nous ne manquerons de rien. Alors, il nous enseignera et nous convaincra de péché. Il nous annoncera les choses à venir. Il nous expliquera, il nous révélera Jésus, il nous consolera, il nous aidera, il nous guidera, conduira dans toute la vérité. Tout ce qui est écrit dans le contexte doit arriver et arrivera, même que nous recevrons de la puissance, comme il a dit, lorsque le Saint-Esprit vient sur nous. Maintenant, lisons Actes apôtres 2. Nous avons déjà étudié de nombreux passages bibliques. Actes chapitre 2, du verset 1. Et prenons cela maintenant comme notre jour, comme notre expérience, comme l'heure où Dieu veut agir avec nous exactement comme il l'a fait autrefois. Il est dit ici, au verset 1, Actes chapitre 2, verset 1. Quand le jour de la Pentecôte fut arrivé, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il s'éleva du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux et puissant. Et il remplit toute la maison où il se trouvait. Des langues leur apparurent comme du feu, se divisant en petites flammes, et une se posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous avons ici l'effusion du Saint-Esprit sur l'Église primitive, sur nos frères et nos sœurs au commencement, nos frères et sœurs du début. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait au début, il doit le faire encore à la fin. Et il le fera encore à la fin. Mais nous devons être réunis d'un commun accord, unis dans la prière, au nom du Seigneur. La promesse doit être aussi vivante en nous qu'elle l'était alors qu'elle était autrefois dans les 120. Pour eux, ce n'était pas une chose que Pierre ou Paul avaient dites, mais qu'ils avaient entendu de la bouche du Seigneur après peu de jours. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ils se souvenaient de Jean qui avait dit, « Moi, je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Ils n'avaient rien d'autre en tête et dans leur cœur qu'une seule chose, être remplis du Saint-Esprit. Ils ne s'étaient pas réunis pour parler, mais pour être unis d'un commun accord devant la face de Dieu rassemblée. Et tout à coup, le bruit tumultueux est venu du ciel. Le bruit impétueux est venu du ciel. Je suis convaincu que la même chose peut se reproduire aujourd'hui. non pas parce que toi et moi sommes ici, mais parce que le Seigneur est ici et qu'il est lié à sa parole, la promesse, sa promesse qu'il a faite à son peuple au début, au commencement, est la même promesse qu'il a faite à son peuple à la fin. Il est dit ici, au verset 3, des langues leur apparurent comme du feu, se divisant en petites flammes, et une se posa sur chacun d'eux. Frères et sœurs, c'est dans la prière que ces gens ont cherché à trouver le lien avec Dieu. Et c'est de cette union, relation, liaison avec Dieu dans la prière et dans la foi que la puissance du Saint-Esprit s'est répandue en eux. Et le feu de Dieu est descendu sur eux. Des langues leur apparurent comme séparées par le feu. Je l'ai souvent dit, non pas des yeux de feu, non pas des oreilles de feu, mais des langues, comme séparées par le feu. Et la raison en est que la langue, qui est le plus grand mal sur la terre, doit désormais être mise au service de Dieu, réellement. Et pour cela, il faut qu'elle soit pénétrée et divisée par le feu divin, afin que désormais, ce ne soient pas les hommes qui parlent humainement, mais que ce soit Dieu lui-même qui parle de manière divine à travers nous pour porter sa parole à son peuple, afin que nous puissions ensuite annoncer les grandes œuvres de Dieu. Si vous êtes en compagnie d'un homme, il ne vous faudra pas longtemps pour constater si sa langue est embrasée par ce feu divin. Et je vous le lis ici dans la parole de Dieu pour que vous ne disiez pas, attendez, mais ça c'est le frère Franck qui a dit cela. Non, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu qui le dit, qu'ils annonçaient les grandes œuvres de Dieu, les merveilles de Dieu, et rien d'autre avec leur langue consumée par le feu. Nous poursuivons notre lecture, Actes apôtres 2, verset 5. Actes apôtres 2, verset 5. Or, il y avait à Jérusalem des Juifs, des hommes craignant Dieu et de toutes les nations qui sont sous le ciel. Quand ce bruit eut lieu, ils s'assemblèrent en grand nombre et furent troublés, car chacun les entendait parler dans sa propre langue. Alors, la confusion de Babel était terminée. Chacun entendait dans sa propre langue. Il n'était pas nécessaire de se demander l'un à l'autre qu'est-ce qu'il a dit maintenant. Non, chacun comprenait. Tous entendaient. Personne ne demandait. Tous étaient saisis et se trouvaient sous l'effet du Saint-Esprit, sous la puissance de Dieu qui était déversée. Si Pierre avait été celui qui parlait, alors peut-être l'un aurait-il dû demander à l'autre, « Peux-tu me traduire maintenant ce qu'il a dit ? Je n'ai pas compris. » Si vous lisez, il y avait des Médès, des Mèdes, des Perses et des Élamites, 16 ou 17 nations différentes. Et aucun traducteur n'était nécessaire. Personne n'avait besoin de demander à l'autre « Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce que celui-ci a dit ? Celui-là n'a rien dit. » C'était un autre qui avait parlé à travers eux, à travers lui, à travers Pierre, qui a établi la connexion de l'esprit par ce canal divin à tous ceux qui étaient destinés à être saisis à leur tour par Dieu. Ce n'est pas Pierre qui a établi le lien avec ces personnes. Et il n'a jamais demandé, avez-vous compris maintenant ce que j'ai dit? Non. Il s'est simplement mis à la disposition de Dieu et le Seigneur, lui, a fait le reste pour tous ceux qui s'étaient réunis et qui étaient destinés à accepter le salut. Il est dit ici, car chacun les entendait parler dans sa propre langue. Le verset 6, pour ceux qui n'étaient pas destinés à la vie éternelle, c'était une confusion totale. Chacun parlait et chacun écoutait, mais ceux qui parlaient ne savaient pas ce qu'ils disaient, car c'était l'Esprit qui parlait en eux et par eux. Mais ceux qui entendaient avaient compris chaque mot, chaque parole, et chacun dans sa propre langue. Alléluia! C'était un miracle de Dieu, un lien divin entre ceux qui étaient bénis et à travers lesquels le flot de bénédiction se déversait sur des milliers et des milliers de personnes qui s'étaient réunies pour entendre la parole de Dieu. Au verset 7, nous lisons, alors tous furent saisis d'étonnement et demandèrent, le verset 7, et demandèrent, tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas de Galilée? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun parler dans notre propre langue, celle dans laquelle nous sommes nés? Oh, quelle parole glorieuse! Aucun interprète n'était demandé ou nécessaire. Chacun entendait ce qui était dit là par l'Esprit, non pas dans la langue étrangère qu'il avait apprise, mais dans sa langue maternelle, dans la langue dans laquelle il était né. C'est une chose merveilleuse. Dieu est un Dieu original. Et sa langue est une langue originale. Et si nous sommes aujourd'hui rassemblés de différentes langues et nations, alors le Saint-Esprit peut révéler et transfigurer et faire connaître le contenu divin à chacun dans sa propre langue. Et alors, nous sommes un seul cœur et une seule âme. Et nous serons bénis parce que nous comprenons tous la même chose. Plus loin, il est écrit que toutes les nations sont énumérées, les Mèdes et les Perses et ainsi de suite. Puis il est dit ici, tout à la fin, verset 11, Juifs, nous les entendons, donc la deuxième partie du verset 11, et nous les entendons proclamer dans nos langues les grandes œuvres de Dieu. Verset 11. C'était le résultat de l'effusion du Saint-Esprit. La proclamation des grandes œuvres de Dieu. Le lien entre les bénis et ceux qui devaient encore être bénis. Entre ceux qui étaient déjà sauvés et ceux qui devaient encore être sauvés. Le Saint-Esprit rétablit le lien d'enfant de Dieu à enfant de Dieu. Il ne s'agit pas d'un lien humain, mais d'un lien divin par le Saint-Esprit les uns avec les autres. Frères et sœurs, certains passages bibliques pourrait encore être lu. Mais ce jour, doit être un jour d'adoration, un jour où nous voulons faire l'expérience avec Dieu. Et nous n'avons pas besoin de crier fort. Il nous suffit de parler à Dieu avec foi. Au jour d'Élie, il a dit au sacrificateur, au prêtre de Baal, criez encore plus fort. Peut-être que votre Dieu dort. Mais notre Dieu est le gardien d'Israël. Il ne dort pas et ne sommeille pas. Il ne se fatigue pas et ne se lasse pas. Il a la puissance en abondance. Et la droite de l'Éternel est élevée. Et la droite de l'Éternel conserve la victoire. Même si toi et moi passons parfois par les profondeurs les plus basses, nous levons les yeux vers Dieu. Et ce n'est pas nous qui le retenons, c'est lui qui nous retient. Si nous devions le tenir, nous manquerions parfois de force. Mais lorsqu'il nous a saisis, il ne nous lâche plus. Nous savons en qui nous croyons. Nous savons qui nous a parlé en ce temps par sa parole révélée. Et nous savons que la fin doit devenir semblable au commencement. Seul Dieu peut nous rassembler, peut le faire et nous rassembler. Seul Dieu peut atteindre cet état, cette condition de l'Église, et nous rassembler dans l'unité de l'Esprit de telle sorte que nous ne voyons et n'entendons rien d'autre et voyons personne d'autre que Jésus seul. Lui qui, pour nous, a saigné, a versé son sang sur la croix à Golgotha. Lui qui a dit, je t'ai toujours aimé, je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Ne laissez aucun doute vous envahir. Que Dieu ait mis la foi dans nos cœurs à cette heure. Et comme je l'ai souvent souligné, la parole de Dieu est crédible, est digne de foi, est digne qu'on la croie. La parole de Dieu est oui et amen. Et nous nous plaçons ensemble sur les promesses de la parole de Dieu et demandons ensemble le baptême du Saint-Esprit. Combien peuvent croire de tout cœur que Dieu peut le faire aujourd'hui? Cela fait beaucoup de mains. Maintenant, encore une question. Combien peuvent croire qu'il le fera? Amen. Amen, c'est nécessaire. Dieu est Dieu. J'ai encore un certain nombre de passages bibliques. Mais le temps est bien avancé. Le temps est bien avancé. Il est écrit, pendant que Pierre parlait encore de cette manière, le Saint-Esprit tomba. Après la Pentecôte, nous n'avons plus besoin d'attendre. Maintenant, c'est Dieu qui attend que nous venions à lui dans la foi pour qu'il puisse nous remplir et nous combler. Golgotha, la résurrection, la montée au ciel, la Pentecôte, sont des événements de l'histoire du salut qui ont eu déjà lieu et qui sont à notre disposition dans toute leur signification à toi et à moi. Depuis Dieu, donc de la part de Dieu, dans la foi, nous pouvons les recevoir et y pénétrer. Et vous verrez que Dieu se penchera vers nous. Il y a une autre demande que nous aimerions lui adressé. Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Apprends-nous par ton esprit à exprimer devant toi dans la prière ce qui entraînera ta réponse. Ah, que nous puissions trouver aujourd'hui une union intime avec Dieu, une communion d'esprit avec lui et entre nous les uns avec les autres. Et que nous demandions et disions pour chaque frère et prions pour chaque sœur, Seigneur, pardonne tout et couvre-le de ton sang précieux et saint. Ne te souviens plus de la faute et du péché. Lave-nous plus blanc que la neige. Et dites tranquillement, Seigneur, nous avons été baptisés d'eau. Mais aujourd'hui, nous sommes ici pour être baptisés par toi. Et le Seigneur ne baptise pas avec de l'eau. Il baptise avec le Saint-Esprit et avec le feu. Alléluia. Loué soit son merveilleux nom et glorieux. Mais nous devons nous ouvrir devant Dieu, dans la prière venir à lui. Et cela dans la foi totale. Et nous sommes convaincus qu'il répond aujourd'hui encore. Loué soit son saint nom. Il est un Dieu vivant. Pouvez-vous imaginer qu'il fasse une promesse et qu'il se retire ensuite pour nous décevoir? Jamais. Au grand jamais. Non. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen par Jésus-Christ notre Seigneur. Et elles s'accomplissent dans ta vie et dans la mienne. Et elles s'accompliront dans ta vie et dans la mienne. C'est notre souhait. C'est notre souhait commun. Seigneur, enlève tout Babel. Enlève tout. Les propres mortiers, ciments. Enlève toutes les propres pierres. Enlève tout ce qui est lié au « nous voulons, je veux, faisons ceci, faisons cela ». Et que nous puissions comprendre que notre Seigneur dit « je bâtirai mon église ». Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Tout comme autrefois, la ville et la tour de Babel, des personnes qui étaient religieuses, oui, leur but était d'aller au ciel, n'est-ce pas? Mais ils voulaient le faire à leur manière. Ils voulaient construire. Nous voulons. Bâtissons. Faisons ceci, faisons-nous un nom. Mais ensuite, Dieu a mis fin à la volonté humaine, aux activités humaines. Il a renversé la tour, il a confondu les langues et il les a dispersées. De nombreux dispersés étaient rassemblés à Jérusalem. Et tous entendaient chacun dans leur propre langue, entendaient leur langue. Ils entendaient les grandes œuvres de Dieu dans leur langue. Les premières pierres vivantes ont été assemblées pour former la maison de Dieu en esprit. Et le ciment était l'amour divin répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est ce qui nous maintient ensemble. Que Dieu fasse de ce jour un vrai jour de Pentecôte. Cela est ma prière. Au nom de Jésus. Amen.